Oui, d'accord. Bien, bonjour à toutes et toutes. Nous allons pouvoir commencer. Donc, merci à ceux qui ont pris du temps pour venir écouter cette formation, que ce soit ici dans l'amphithéâtre ou à distance. Donc, tout d'abord, pour vous prévenir que donc c'est enregistré. Ce qui permettra d'ailleurs à ceux qui le souhaitent de réécouter ou d'écouter en différé. Donc, je me présente, Hélène Bouraïma-Lelon, je suis une des vice-présidentes de la commission formation vie universitaire de cette université. Et donc, nous sommes ici avec l'équipe qui se présentera lorsqu'elle interviendra pour vous présenter de manière plus détaillée le dispositif de césure. Donc, juste une petite introduction. La césure, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui a été introduit dans les possibilités de diplôme depuis 2018, notamment dans la loi orientation et réussite des étudiants, et qui vous est offerte une fois dans un cycle pour pouvoir justement ouvrir un petit peu, si vous le souhaitez, vos connaissances et compétences sur d'autres domaines ou faire une pause dans vos études. Donc, vous allez avoir donc toutes les explications nécessaires pour savoir comment candidater, quand candidater, et puis ensuite, eh bien, ce que vous pouvez faire pendant votre césure. Et puis, nous allons finir par un témoignage et donc qui vous permettra d'éclairer un petit peu justement le bénéfice de la césure. Donc, je vais vous souhaiter une bonne réunion. Je dois vous quitter. Et encore merci donc à tous les services, parce qu'ils sont plusieurs qui se sont mobilisés sur cette question et sur la possibilité de vous présenter de manière plus exhaustive ce dispositif.
Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'à distance, vous nous entendez bien. Je vais le mettre en plein écran. Voilà. Donc, je vais commencer par me présenter. Alors, je suis Marjorie Rennes. Je suis responsable du pôle accompagnement aux réussites étudiantes à la DEV, à la Direction des études et de la vie étudiante. Donc, c'est un tout nouveau pôle dont mes collègues ici présents, Mathieu et puis Bérénice, qui vont se présenter aussi tout à l'heure. On s'occupe notamment de la césure. C'est pourquoi aujourd'hui, on est ici. Mais pas que. Engagement étudiant aussi. Tout ce qui est contrat pédagogique, enfin voilà, je vais pas vous inonder d'informations sur ce sujet-là maintenant, mais voilà, donc aujourd'hui, on souhaitait faire une réunion d'information concernant la césure, puisque la prochaine rentrée universitaire arrive très rapidement, et donc une campagne de candidature pour la césure vient d'être ouverte, donc depuis hier. Et on va vous expliquer donc déjà ce qu'est la césure, quelles sont les formes de césure possibles, ce que vous pouvez faire dans le cadre d'une césure. Également, le processus de candidature, votre dossier, en quoi ça consiste. L'accompagnement qu'on peut vous proposer également avant, pendant et après une césure. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va défiler un ensemble de slides avec des informations. N'hésitez vraiment pas à intervenir, à poser des questions. On est en petit comité. Voilà, n'hésitez pas, on va vous répondre. Et à distance aussi, on surveille le chat s'il y a des questions. Ça commence bien. Voilà, donc je vais revenir rapidement sur ce qu'est une césure. Donc, comme l'a évoqué Madame Bouraïma, donc c'est vraiment une période pendant laquelle vous interrompez vos études, donc pendant une année, et où vous pouvez réaliser un projet personnel ou aussi professionnel. Et à la suite de cette césure, vous êtes invité à revenir à l'université pour suivre vos études. Donc, il existe différentes formes de césure. Il est possible, en plus, de combiner plusieurs formes de césure. Par exemple, vous pouvez réaliser un stage de 6 mois, puis 6 mois de bénévolat. par exemple, ou alors un service civique pendant 9 mois et puis 2 mois de bénévolat. Enfin voilà, il y a différentes formes possibles. Donc, il est possible de faire une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans lequel vous êtes inscrit à l'université, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, vous pouvez également réaliser du bénévolat dans une association. Ensuite, une expérience professionnelle avec un contrat de travail, pareil que ce soit en France ou à l'étranger. Cette année de césure peut être aussi l'opportunité de créer une entreprise avec le statut d'auto-entrepreneur. À l'université de Caen, comme toutes les universités, on a une cellule qui s'appelle Pépite et qui vous permet d'avoir le statut national d'auto-entrepreneur, d'étudiant auto-entrepreneur. Et donc cette césure peut être l'occasion pour vous de préparer, de créer votre entreprise et d'être accompagné par le pôle, la cellule Pépite. Donc, c'est une cellule qu'on a aussi au sein de l'université de Caen. Vous pouvez bien sûr également faire un engagement, un service civique. Donc, un service civique, c'est effectué entre 24 heures par semaine sur une période de 6 à 12 mois, vous avez une rémunération, on va dire une gratification. Voilà, ça vous donne une indemnisation mensuelle. Et ça peut se réaliser soit en France ou à l'étranger. Et donc, il existe plusieurs types de volontariat, donc le service civique en France, mais vous avez également un CES, donc c'est un corps européen de solidarité, c'est-à-dire que vous faites une mission d'intérêt général dans un pays européen. Le VSI, donc le volontariat de solidarité internationale dans un pays étranger. Alors, ça peut être dans une entreprise, mais également dans une ONG, par exemple. Et le volontariat associatif ou de solidarité. Donc ici, on peut parler de l'engagement en tant que sapeur-pompier volontaire, par exemple, ou militaire dans une réserve opérationnelle. Et vous pouvez également faire un stage. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue Serena de l'espace orientation insertion, qui va vous expliquer parce que c'est un petit peu plus particulier. Voilà. Ah, je ne sais pas si c'est allumé.
Là, c'est bon, vous m'entendez normalement. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Du coup, moi, je suis donc Serena Pitizi, chargée d'orientation et d'insertion professionnelle, donc à l'espace orientation insertion qui se trouve dans le bâtiment B au rez-de-chaussée, pas très loin, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on accompagne les étudiants dans la construction de leur parcours, que ce soit de la réorientation, des choix de formation ou même, du coup, tout simplement une poursuite d'études. Et aujourd'hui, donc, je suis là, moi, pour vous parler des stages, en fait, qui sont faisables en césure. Tout simplement parce que les stages, c'est vraiment une bonne solution aussi pour occuper une année de pause. Surtout pour les personnes qui, par exemple, ont besoin de travailler encore un petit peu leur projet. Donc c'est l'occasion de découvrir du coup des secteurs professionnels tout simplement. Si vous hésitez entre deux secteurs, c'est l'occasion de tester, parce que là du coup sur une année de césure vous pouvez faire le nombre de stages que vous souhaitez tant que vous ne dépassez pas 6 mois maximum dans une même structure de stage. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être très enrichissant pour vous. Vous allez développer des compétences, vous allez mettre en application des choses que vous avez peut-être vues en cours. Vous allez pouvoir aussi booster votre dossier de candidature, notamment par exemple pour ceux qui souhaitent poursuivre en master ou dans des formations qui sont très sélectives. Voilà, c'est l'occasion de vous démarquer aussi de vos camarades de classe, de promo, en rendant votre expérience assez unique et votre parcours assez unique. Voilà. Nous, à l'EOI, du coup, on est en mesure de vous signer des conventions de stage et de vous proposer un suivi, justement, un encadrement pendant toute la période de stage. Donc, si à un moment donné, quelque chose se passe mal avec l'entreprise, si vous souhaitez mettre fin au stage parce que ça ne correspond pas à vos attentes, nous, on est vos interlocuteurs privilégiés pour tout ça. Voilà. Il me semble avoir fait à peu près le tour sur la possibilité au niveau des stages. Pour créer des conventions, c'est pareil. Il faut vous rapprocher en fait d'un conseiller ou d'une conseillère d'orientation, qu'on voit un petit peu le projet avec vous, et ensuite on vous explique toute la partie administrative. Donc c'est quelque chose qui se prépare aussi un stage. C'est encadré, donc forcément il faut en amont trouver l'entreprise par vous-même. Nous, on peut aussi vous accompagner si vous avez des difficultés à trouver un stage, tout simplement. Et ensuite, on vous accompagne aussi dans la création et de la convention, parce qu'une convention est obligatoire dans le cadre d'un stage. Faites attention, aujourd'hui, c'est pas si facile que ça d'avoir une convention quand on n'a pas le statut étudiant. D'où aussi le gros avantage d'être en césure, c'est le maintien du statut étudiant et donc cette facilité-là, finalement, à obtenir une convention par le biais de l'université. Sinon, après, vous allez être assez restreint. Méfiez-vous aussi de ce que vous pouvez voir passer sur Internet où maintenant on peut payer pour avoir des conventions de stage. En général, c'est une arnaque, c'est pas très réglo tout ça, donc on évite et on privilégie vraiment les choses sérieuses. Donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre, discuter un petit peu de la pertinence ou non de faire un stage par rapport à votre projet. Il ne faut pas non plus que le stage soit une expérience professionnelle déguisée, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, vous n'êtes pas là pour remplacer un salarié. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir faire un stage. Maintenant, si vous trouvez ça un petit peu suspect et que vous avez l'impression de finalement faire l'emploi d'un salarié, c'est que le stage n'était peut-être pas la bonne solution. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important d'être encadré par l'université, parce que ça va être à nous aussi de veiller à ce que les conditions soient bien remplies. Voilà, il me semble que c'est à peu près tout pour le stage. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer à l'EOI. Rez-de-chaussée du bâtiment B, on est ouvert sans rendez-vous tous les jours, sauf le lundi matin et le vendredi après-midi.
Voilà. Juste, il y a une question sur la visio, donc avec un étudiant, Max, qui demande, existe-t-il une durée minimum de stage pour valider la césure ? Donc, je ne sais pas si tu veux répondre.
Alors, en fait, le stage ne valide pas la césure. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes admis en césure, vous êtes un peu libre de faire ce que vous voulez du moment où vous respectez un petit peu les engagements qui ont permis de valider, d'accepter en tout cas la césure. Au niveau des stages, on est sur des stages en fait qui sont libres derrière. On ne va pas vous demander des rapports de stage ou ce genre de choses. C'est vraiment une expérience qui est pour vous. Donc, il n'y a pas de durée minimum. Nous à l'EOI on signe des conventions de stage pour des gens qui font des stages d'une journée parfois de découverte. Là c'est plutôt vraiment un aspect maximum, vous pouvez faire 2 fois 6 mois de stage mais pas dans la même entreprise. Voilà. Mais il n'y a pas de minimum.
Merci.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport au stage mais également les formes de césure qu'on vient de citer? Je vois bien. Et sur la visio, il n'y a pas non plus d'autres questions ? Et sur les autres formes de césure, peut-être ?
Les conventions de stage peuvent-elles être rémunérées ou obligatoirement bénévoles ? Non, on peut être. Pas forcément bénévole. Hein. Il y a une gratification obligatoire au-delà d'un certain nombre d'heures. Ouais,
tout à fait. Je crois que c'est 2 mois et 1 semaine, non ? 309 heures précisément.
Et voilà, donc, et sinon, toujours sur le chat, Valentin qui demande, et donc un stage de 1 jour peut être une raison valable pour une année de césure. Donc, quand vous faites une candidature pour une césure, il y a un dossier à remplir avec une lettre de motivation. Il faut expliquer son projet. Donc, on verra ça tout à l'heure plus en détail. Hein, mais c'est un projet qui doit être réfléchi, qui doit être construit. On peut vous accompagner pour ça à la direction des études ou à l'espace orientation insertion. Mais effectivement, 1 jour de stage, déjà, je ne sais pas si ça existe vraiment. Mais en tout cas, le projet il doit être quand même construit et réfléchi pour que la césure soit acceptée. Ce n'est pas une année de pause où vous êtes lâché dans la nature. C'est une année pour vraiment construire votre projet personnel, professionnel, et qui doit être en rapport aussi avec votre projet de formation, même si c'est dans le cadre d'une réorientation. Vous devez avoir une vision de ce que vous voulez faire pour votre réintégration ensuite dans votre parcours d'études.
Ah, il y a une petite question. Allez, Mathé, il faut que tu cours en haut.
Moi, j'avais juste une petite question sur les plateformes de services civiques qu'on trouve beaucoup sur Internet. Est-ce qu'il y en avait une que vous conseillez plus ou moins, les frauduleuses
Alors, on va vous présenter tout à l'heure. On a ouvert un espace sur eCampus, donc la plateforme Moodle, enfin que vous connaissez certainement via vos cours. Et sur cette plateforme, sur cet espace eCampus, on a justement recensé tous les sites où vous pouvez aller rechercher les offres de services civiques, de VSI, enfin voilà, des choses un petit peu, on va dire, sérieux quoi. Mais là, en tête, j'en ai pas particulièrement, mais je sais qu'on a recensé tout ça. On va vous le présenter tout à l'heure. Ah bah, j'ai oublié de mettre ta diapo. Mince. Pardon. Alors, quand faire une césure ? Il est possible de faire une césure une fois par cycle. Donc, c'est-à-dire une fois en licence, une fois en master et une fois en doctorat. Vigilance, on peut faire une césure entre la L3 et le M1 à condition d'être admis en M1. Donc, par exemple, là, si vous souhaitez faire une césure à la rentrée, dès la rentrée septembre 24-25, il faut impérativement que vous soyez admis en Master 1. Et c'est la même chose si vous êtes en M2 et que vous passez en doctorat, que vous souhaitez faire un doctorat, vous devez être inscrit et admis surtout en doctorat. Sinon, ce ne sera pas possible de faire une césure. Donc, le process, c'est que, bon, là, les candidatures sont passées pour les masters, mais c'est de faire sa candidature pour le master, d'être admis en master et ensuite de faire son dossier pour faire la césure et après son inscription administrative à l'université. Voilà. Donc retenez bien qu'il faut vraiment être admis dans une formation de l'université de Caen pour pouvoir faire une césure à l'université. Oui, alors attendez, on va juste vous passer le micro pour que tout le monde entende bien.
Et du coup, quand on est admis en master, qu'on a une césure acceptée, quand on revient, on est toujours admis en master.
Oui, c'est ça. Vous conservez votre place. Vous conservez votre place comme toutes les années de licence ou de master. Vous réintégrez votre formation en septembre, du coup, 25-26. Voilà. Serena, tu as une question.
Non, c'est pas une question, mais du coup, je vais compléter ce que je disais par rapport au stage ou notamment... Un des gros avantages aussi de réaliser un stage en césure, c'est de commencer à se créer un réseau professionnel, ce qui peut être très très aidant par la suite pour trouver vos stages de master, master 1, master 2. D'un point de vue stratégique aussi, ce qui est très bien, mais assez peu utilisé, on voit beaucoup de L3 qui s'intéressent à la césure, c'est en fait de s'y intéresser dès la L2 pour justement se professionnaliser le plus tôt possible et commencer un petit peu à affiner son projet, à se différencier des autres, et avoir vraiment des expériences à valoriser dans ces candidatures pour les masters. Forcément, si vous faites une césure entre la L3 et le master, bon, bah, tant mieux pour vous si vous avez déjà été pris en master. Mais voilà, du coup, ça peut être une belle stratégie de le penser en L2, entre la L2 et la L3.
Tout à fait. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur le chat ?
Il y a une question qui était
exactement la même. Ok, super. Eh ben, on continue. Du coup, quelle est la durée d'une période de césure ? Alors, cette année, contrairement aux années précédentes, la césure sera à l'année universitaire et non plus au semestre. Donc, voilà, l'année de césure va commencer en septembre et va se terminer en août l'année prochaine, quoi. Enfin, une année complète, 24-25. Voilà. Alors, comment et quand candidater ? Donc, la césure n'est pas automatiquement accordée. Hein. L'étudiant doit en faire la demande auprès de l'université de Caen. Donc, pour effectuer une demande de césure, l'étudiant doit soumettre en fait son projet à une commission césure de l'établissement dans lequel il est inscrit. Du coup, la première étape, c'est de déposer son dossier de candidature en ligne sur e-candidat. Normalement, vous êtes familier avec, avec ce site. C'est le même que lorsque vous vous candidatez pour une formation, enfin, ou pour l'engagement étudiant. Enfin, voilà. C'est une plateforme assez connue. Il suffit juste de créer son compte si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, de saisir le centre de candidature Césure. Donc, on a deux campagnes de candidature, la première donc du 15 mai au 28 juin et la deuxième campagne du 19 août au 13 septembre. On a fait deux campagnes juste simplement pour déjà élargir cette campagne puisqu'on ne fait qu'une seule grosse campagne de candidature alors que l'année dernière, on en faisait deux parce qu'on avait deux semestres. Là, vu qu'on n'a qu'une grosse année de césure, on va dire, donc on fait une plus grande campagne de candidature. Et puis surtout, ça vous permet, notamment sur la deuxième période du 19 août au 13 septembre, c'est que vous allez potentiellement commencer peut-être une formation. Et potentiellement, dans les premiers jours, vous allez vous rendre compte que ça ne vous correspond pas forcément. Voilà, vous avez encore cette petite possibilité de pouvoir faire une césure ou alors d'aller voir mes collègues de l'EOI pour voir ce qui est possible de faire en cas de réorientation. Enfin, voilà. Donc, dossier de candidature, on va vous montrer, on va vous expliquer ce qu'est le dossier de candidature. Deuxième étape, du coup, c'est on a une commission établissement qui va se réunir où on va étudier votre candidature. Donc, ce dossier de candidature, il faut le peaufiner et vraiment le préciser un maximum parce qu'il va être vraiment étudié par la commission de l'établissement. Il y a plusieurs personnes qui se réunissent. Donc, une commission le 9 juillet et une commission le 19 septembre. Ils vont donner en fait un avis sur votre candidature. Donc, si c'est un avis favorable, à la suite de ça, vous allez recevoir une notification de e-candidat comme quoi vous avez été, enfin, votre dossier a été accepté pour la césure. Si c'est un refus, bah, vous avez la possibilité de demander un recours et de faire réévaluer votre dossier. Si c'est un avis favorable, dans les semaines qui vont suivre, on va vous recontacter pour signer une convention de césure. Tout à l'heure, Serena parlait d'une convention de stage. C'est pour les étudiants qui souhaitent faire un stage durant la césure. Pour tous les autres étudiants, il faut faire une convention de césure. C'est obligatoire. Cette convention, en fait, elle reprend toutes les modalités de votre césure, votre projet de césure, qu'est-ce que vous allez faire, l'accompagnement qu'on va vous proposer durant cette année de césure. Votre engagement à réintégrer l'université l'année suivante. Si ce n'est pas le cas, vous vous engagez à nous prévenir dès que possible, enfin, dès que vous vous rendez compte que vous ne reviendrez pas. Et voilà. Et troisième étape, donc signature de la convention de césure entre l'étudiant et l'université. Et juste avant que Serena prenne la parole, la dernière étape, c'est vous devez impérativement vous inscrire. Une fois que vous avez eu l'avis favorable à la césure, une fois que vous avez signé la convention, vous devez impérativement vous inscrire administrativement à l'université, comme vous faites tous les ans en fait à l'université. Donc, vous devez vous inscrire. Il n'y a pas d'inscription pédagogique à faire puisque vous ne suivez pas de formation à l'université, vous faites une césure. Donc, il y a juste l'inscription administrative.
Donc juste pour compléter ce que disait Marjorie, l'EOI, nous, on est là aussi pour vous accompagner justement dans la construction de votre dossier, notamment sur la partie lettre de motivation, tout simplement, pour vous aider un petit peu à verbaliser votre projet, à le mettre en forme, à argumenter un petit peu justement ce que vous comptez faire pendant la césure. Vous aider aussi tout simplement à avoir une stratégie, qu'est-ce qui est le plus pertinent entre un stage ou un service civique. Et du coup, voilà, justement, donc on vous accompagne aussi là-dessus. Et je redis bien par rapport à la convention de césure, parce qu'il y a eu quelques petites confusions cette année, tous les étudiants ont une convention de césure, mais n'ont pas de convention de stage. Donc, vous allez tous signer une convention de césure, et la convention de césure ne vous donne pas accès au stage. Il faudra par la suite revenir signer une convention de stage avec l'EOI. Donc la convention de césure est gérée par la DEV, par la cellule de Marjorie, et la convention de stage par l'EOI. Voilà, donc c'est deux choses bien distinctes, qui ont le même nom, mais qui n'ont pas la même utilité.
Et surtout une question d'assurance, je crois, par rapport à la convention de stage.
Alors, dans la convention de stage, il faudra fournir, en effet, une attestation de responsabilité civile pour vous couvrir pendant la durée de votre stage. donc qui sera aussi fourni à l'EOI et non pas à l'ADEL.
Voilà. Alors, le dossier de candidature. Vous allez devoir compléter un... Ah oui, pardon. Oui. Attends, on va juste... pardon. Pour que tout le monde entende en visio.
Donc, pour la signature de la convention de saisie entre l'étudiant et l'université, est-ce qu'elle peut se faire à distance ou pas?
Oui.
Parce que dans le cadre d'un départ à l'étranger en septembre, du coup, déjà, ce qui m'inquiète, c'est que ça veut dire que potentiellement, on peut partir en septembre à l'étranger sans savoir si notre césure est accordée ou non, notamment dans le cadre d'un service civique. Si on a le résultat le 19 septembre, si on est déjà parti, bon.
En fait, par exemple, dans votre cas, vous allez faire votre candidature dès aujourd'hui. Et notre commission, elle sera le 9 juillet. Donc, le 10 juillet, vous allez être informé que votre césure est validée.
Alors, dans mon cas, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas encore mon service civique. Je sais que je pars à cette période-là, mais okay. Je n'ai pas de convention avec une organisation ou quoi que ce soit. Donc,
ouais.
Je ne peux pas prouver que je suis engagé quelque part.
Ouais.
Je suis en train de faire les démarches. Mais,
ouais.
Donc, je pense plutôt que je vais déposer mon dossier dans la deuxième campagne de candidature.
C'est un risque à prendre parce que en fait, ça reste quand même un dispositif où c'est pas juste on part à l'étranger. Il faut que derrière on ait une structure d'accueil. Donc typiquement, ça peut être une entreprise ou dans le cadre d'un service civique. Donc si dans ce dossier de candidature, il faut donner un maximum de preuves comme quoi vous allez faire quelque chose à l'étranger. Donc si vous déposez votre dossier et qu'on n'a aucune preuve, enfin, de justificatif, on va dire. Ben, en tout cas, vous ne serez pas considéré en césure.
Mais à l'inverse, si l'organisation nous délivre une attestation comme quoi on est bien pris chez eux, c'est réglé.
Enfin, ah oui, c'est réglé.
Il n'y a pas de risque.
Non.
D'accord.
Non, non.
Merci.
Et on peut signer la convention à distance. On peut, enfin, on vous envoie la convention par mail, vous signez, et puis vous nous la renvoyez par mail, quoi. Ça se fait, voilà. Je crois que tu as une petite question là-haut.
Et pour faire une demande d'année de césure, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement avoir un projet construit dans le sens où on a un service civique déjà admis, pris, etc.
Oui, il faut avoir un projet construit. Après, si vous n'avez pas votre contrat d'engagement, vous pouvez quand même avoir une attestation du recruteur, je ne sais pas trop, de l'association ou de la structure qui atteste que vous allez bien être recruté sur la période de telle date à telle date pour un service civique. Parce que c'est vrai que les contrats d'engagement peuvent peut-être être un peu longs à arriver. Enfin, ça dépend des structures. Donc, une attestation, même par mail, vous pouvez le joindre au dossier de candidature de D'accord. la césure.
Merci.
Sur la visio, c'est vrai que deux micros, ça aurait été bien.
Ouais, donc des questions sur la visio, notamment une qui demande si les deux phases de candidature sont indépendantes. Et donc j'imagine la question sous-jacente, c'est est-ce que si je suis refusé à la première session du 9 juillet, que je recandidate à la deuxième en ayant mieux présenté, mieux affiné mon projet, est-ce que ça pourrait être accepté le 19 septembre ou c'est une seule candidature par année?
C'est vrai qu'on n'y a pas tellement réfléchi, mais c'est une bonne question parce que si le dossier, la candidature a été refusée, en général, on justifie pourquoi ça a été refusé et si le ou la candidate souhaite peaufiner son dossier parce que vraiment elle a un vrai projet, bien sûr qu'elle peut candidater sur la seconde période, quoi.
Une autre question qui était est-ce qu'il est nécessaire d'attendre les résultats des partiels pour passer en commission le 9 juillet? Donc par exemple, quelqu'un qui est en L1, qui doit être admis en L2, est-ce qu'il doit attendre d'avoir ses résultats pour être admis en L2 pour
Non, non, il faut faire sa candidature quand même à la césure. De toute façon, ça va être sous réserve après, surtout sur la L1, L2 ou L2, L3, mais c'est sous réserve d'une inscription administrative ensuite. C'est plus problématique sur du L3, M1, où là, il faut vraiment qu'il soit admis dans le master, quoi.
Donc, il faut noter aussi que c'est possible de faire son dossier, de le déposer en n'ayant même qu'une partie des pièces et qu'une partie des informations, et que la commission peut décider de donner un avis favorable sous condition.
Sous réserve.
Sous réserve.
Ouais. Ouais, de peaufiner votre dossier ou même d'attendre vos résultats. Enfin, voilà. La dernière deadline, c'est le 13 septembre. Voilà. Après, ça ne sera plus possible. On a une autre question.
Est-ce que si on candidate pour une césure, qu'elle est acceptée et que finalement, on change d'avis, est-ce qu'on a quand même le droit de revenir en master à la rentrée ou est-ce que c'est fini et on est engagé pour la césure ?
Non, vous avez, une fois que vous avez 7 jours, en fait, pour vous retourner et pour nous prévenir que vous souhaitez réintégrer votre master. Nous, on changera également votre profil, on va dire, sur notre système de scolarité. Oui, c'est possible, mais vraiment très rapidement, quoi. Vous avez un délai assez court. D'ailleurs, ça sera inscrit dans votre convention de césure. Voilà, je continue. Donc, le dossier de candidature, vous allez avoir un formulaire que vous retrouvez sur e-candidat à télécharger qui récapitule en fait votre projet de césure. Je vais vous le montrer après. Vous devez également déposer un certificat de scolarité de l'année universitaire à venir. Donc ça, c'est dès que vous avez fait votre inscription administrative, hein, vous devez déposer votre certificat de scolarité dès que vous l'avez. Alors la campagne d'inscription administrative, ça ouvre courant juin ou début juillet, le 9 juillet. Ça ouvre le 9 juillet, donc voilà, vous avez quand même un laps de temps pour déposer votre certificat de scolarité. Et ensuite, toute pièce justificative liée à votre projet de césure. C'est ce qu'on disait. Donc, dans le cas d'une formation, un justificatif d'inscription de la structure de formation d'accueil. Si c'est une création d'entreprise, donc l'attestation de la cellule Pépite qui justifie votre statut national d'étudiant entrepreneur. Si c'est un service civique ou un volontariat, ça peut être le contrat d'engagement ou alors, ce que j'expliquais, une attestation, un document ou un texte d'engagement de l'organisme qui va vous accueillir dans le cadre de ce volontariat. Si c'est une expérience en milieu professionnel, un emploi, c'est une attestation de l'employeur et pas forcément le contrat de travail. Vraiment une attestation de l'employeur avec la date de début et de fin de votre future activité professionnelle ou une promesse d'embauche. Si c'est un stage, la convention de stage avec l'organisme d'accueil ou un document attestant l'acceptation de la structure. Et si c'est un autre projet, toute pièce permettant à la commission d'évaluer votre candidature. Gardez bien en tête en fait que plus vous mettez de pièces justificatives, d'éléments qui vont venir compléter votre demande ou vraiment expliquer votre projet de césure, pardon, ça va venir en fait illustrer votre demande et donc du coup permettre à la commission de donner un avis favorable à votre demande. Moins il y a de pièces et plus on va revenir vers vous et plus le risque est que la commission donne un avis défavorable à votre candidature. Alors, je vais juste vous montrer le fichier, le comment on appelle ça. Ça. Alors, ça, c'est le formulaire à compléter. Donc, c'est un formulaire PDF. Hein. Ah, on ne voit pas. Ah, voilà. Voilà. Donc c'est le formulaire, c'est un formulaire PDF à compléter, donc avec votre nom, prénom, mail. Alors le mail où vous allez être joignable pendant la césure. Si vous, vous ne souhaitez pas consulter votre adresse mail étudiante, mettez votre adresse perso. Ça, voilà, c'est préférable. Téléphone, numéro étudiant et date de naissance. Est-ce que vous avez fait une demande de bourse en 2024-2025 ou est-ce que vous allez en faire? On va vous expliquer pourquoi. Avez-vous fait une demande de césure déjà dans votre cursus? Oui, non. Si vous avez déjà effectué une césure, précisez la nature et la période de césure. Votre parcours de formation, donc en 2024-2025, 2025-2026, si vous souhaitez bien réintégrer votre formation, ou même si vous avez un doute, vous pouvez l'expliquer ici. Hein. La nature de la césure, donc s'il s'agit d'une formation, d'une création d'entreprise, un service civique, enfin voilà, on a détaillé ici toutes les formes possibles de la césure avec les pièces justificatives attendues. Et puis ici, on vous demande de résumer votre projet, donc en quelques lignes parce que vous allez le détailler ensuite dans votre lettre de motivation. Donc voilà, on retrouve service civique, le volontariat, le milieu professionnel. On vous a donné quelques exemples aussi, assistant en langue, fille au pair, travail en entreprise, le stage pour vous rapprocher de l'espace orientation-insertion et autres projets, donc le bénévolat par exemple. Ensuite, ici, on va vous demander de préciser la date et les lieux dans lesquels vous allez réaliser votre césure. Donc, l'organisme, le nom de l'organisme, le lieu d'accueil et la personne référente, si vous la connaissez, la date de début, la date de fin et l'adresse de votre lieu. On a mis plusieurs lignes, hein, parce que, comme on le disait, vous pouvez cumuler deux formes de césure. Voilà. Par exemple, vous pouvez faire un VSI de 7 mois et puis faire 3 mois de bénévolat dans un pays, par exemple. Donc, les pièces à joindre à ce dossier, ce sont les pièces que vous allez déposer en complément sur e-candidat. Donc, le certificat de scolarité, comme on expliquait, les pièces justificatives et puis toute pièce qui vous semblerait pertinente pour l'étude de votre candidature. Après, on vous a énoncé quelques conseils en cas de départ à l'étranger et puis le fait que vous pouvez être accompagné tout au long de votre césure. Mais je ne vais pas en dire trop parce que c'est mes collègues qui vont vous présenter ça. La lettre de motivation, donc qui doit faire une page et pas trois lignes, une page, et où vous devez expliquer en détail votre projet de césure, qu'est-ce que vous souhaitez faire, et puis les missions que vous allez réaliser, en quoi cela va être un plus dans votre projet personnel et votre projet de formation. Voilà, donc c'est un formulaire de 4 pages. Hop. Venir ici. Voilà. Est-ce que ça va? Ok, on continue parce que je vois que l'heure tourne. Et donc justement, on va parler des bourses sur critères sociaux qui sont attribuées par le CROUS. Et ça, je vais laisser la parole à mon collègue Matei.
Oui, je voulais rapidement attirer votre attention sur cette question des bourses. La règle générale, c'est que pendant l'année de césure, les bourses sont suspendues. Ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est que le versement des bourses par le CROUS, il est considéré aujourd'hui, conditionné par le fait d'être inscrit à une formation. Donc, dans le cas où vous suspendez votre formation, le droit des bourses est suspendu également. La deuxième raison, c'est qu'il y a un droit aux bourses qui est limité par cycle, hein, notamment 5 en licence. Il y a aussi des conditions d'obtention de CTS pour pouvoir renouveler les demandes et continuer à avoir les bourses qui sont versées. Et donc, le fait de maintenir le droit aux bourses pendant votre année de césure pourrait potentiellement mettre en difficulté certains étudiants au moment de leur réintégration dans la formation. Donc, la règle générale, c'est donc qu'il y a une suspension des bourses pendant l'année de césure. Néanmoins, il y a des cas particuliers, notamment le fait si vous faites une année de césure pour vous inscrire dans une autre formation qui ouvre droit aux bourses. Dans ce cas-là, évidemment, vous pouvez demander, enfin suivre la procédure normale pour avoir le versement des bourses, puisque ça dépend de la formation dans laquelle vous êtes inscrit pendant la césure. Et l'autre cas particulier, c'est sur une demande de votre part lors de la candidature. Et donc là, c'est étudié selon des critères, notamment sur le fait que ce soit en lien avec votre formation ou éloigné de votre formation, sur le fait que vous ayez des besoins particuliers et que vous puissiez justifier que cela ne vous mettra pas en difficulté au moment de votre réintégration. Mais ça, c'est des choses qui sont à motiver dans votre dossier de candidature. Et la décision revient à la commission et au président de l'université, mais c'est vraiment sur des cas exceptionnels. Voilà.
Ouais, juste pour du coup, à titre d'exemple, si vous souhaitez mobiliser, enfin si vous souhaitez conserver votre bourse durant votre année de césure, vous perdez une année de droit de bourse en fait. Donc il vous restera plus que 4 ans sur un cycle de licence. Ça peut aller très 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 vite. Voilà.
Alors maintenant, on va passer à vos droits étudiants pendant votre césure. D'abord, donc vous avez le droit au statut d'étudiant donc pendant la césure, avec tout ce qui s'ensuit, donc la carte étudiante, le certificat de scolarité. Vous avez aussi le droit à un logement en CTU, mais vous, par contre, j'attire votre attention sur le fait que vous n'allez pas être prioritaire. C'est s'il reste de la place. Vous avez aussi accès au restaurant universitaire, au tarif social si vous y avez droit. Et vous avez du coup aussi droit à toutes les aides spécifiques aux étudiants, donc les APL, etc. Vous avez aussi les frais d'inscription à l'université à taux réduit. Donc là, pour les étudiants en césure, c'est 113 euros. Et vous devez tout de même vous acquitter de la CVEC, du coup, qui est de 100 euros. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi droit à un accompagnement tout au long de votre césure par les différents services. Donc, nous, le pôle accompagnement, mais aussi le OI. Voilà, on est avec vous pendant toute cette année-là pour vous accompagner.
Ça a bougé.
Oh mince. Alors, donc, pendant la césure, vous allez avoir un référent césure. Donc, c'est votre interlocuteur privilégié pendant toute l'année. Donc, le référent, il est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, que ce soit si vous exprimez des difficultés pendant l'année, si vous avez des questions sur votre réintégration à l'université, enfin voilà, si vous avez besoin de... On est vraiment votre interlocuteur à l'université si vous avez besoin. Vous allez aussi être informé sur toutes les démarches à suivre pour valoriser vos expériences et vos compétences que vous allez acquérir toute cette année-là. Et on va aussi vous aider à enrichir votre CV et à favoriser votre réorientation et vos projets professionnels avec le OI. Donc cet accompagnement, il se fait en 3 temps. Donc d'abord, un accompagnement préparatoire à la césure. Donc pendant cet accompagnement-là, on a une prise de contact avec le référent de l'établissement, donc nous. Et on pourra vous aider donc à envisager une césure, et voilà, envisager tout ce qui peut se faire pendant cette césure-là, etc. Ensuite, pendant la césure, vous serez contacté par un de nous et on vous demandera de nous rendre compte de votre expérience, de voir comment ça se passe, si tout se passe bien, s'il y a un problème, si vous avez des questions. Voilà, c'est vraiment un point pendant l'année pour échanger avec vous, voir si tout va bien, quoi. Et à la fin de la césure, on a un petit entretien de 15 minutes en présentiel ou en visio pour préparer un peu votre bilan de césure, parce que vous allez devoir faire un bilan à la fin de la césure. Et du coup, on peut voir ça ensemble et on peut le faire ensemble et vous aider. Et enfin, on a créé un espace sur e-campus. Donc là, on vous a mis un petit QR code sur le diapo. Et du coup, sur cet espace, il y a plein de ressources, utiles qui vous seront utiles pour le bon déroulement de la césure. Donc, on a des témoignages, il y a un forum aussi pour que vous puissiez échanger avec d'autres étudiants qui sont partis en césure et aussi avec nous. Et il y a aussi un espace de prise de rendez-vous avec nous. Donc, toute l'année, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous sur cet espace-là, en visio et en présentiel. Et nous, on est à votre disposition et vous pouvez toujours nous écrire si jamais il y a besoin. Voilà.
Et juste pour compléter, c'est vrai qu'à la fin de la césure, alors on sait que ça peut être une parenthèse pour vous et que vous ne souhaitez pas forcément avoir des nouvelles de l'université pendant ce projet-là, mais en fait, on est là pour vous accompagner à revenir à l'université. Parfois, vous n'avez encore jamais été à l'université. Alors, ce n'est peut-être pas le cas ici, mais on a des étudiants qui sortent du bac et qui font directement une césure avant leur L1, et donc on est là vraiment pour donner aussi les premiers repères à l'université. Et surtout, c'est l'occasion pour nous d'échanger avec vous sur si vous souhaitez réintégrer ou non votre formation, et si vous ne le souhaitez pas, mais pourquoi, et comment on peut vous aider, alors nous, mais également vous orienter vers nos collègues de l'EOI qui sauront vous aider. L'espace e-campus est ouvert, hein, vous pouvez y aller quand vous souhaitez, il est ouvert à tout le monde. Voilà. Et n'hésitez pas à nous donner votre avis aussi, on est preneurs. Du coup, on va laisser la parole à notre collègue Laure-Hélène Ladurée qui va vous expliquer ce qu'on peut vous proposer aussi dans le cadre d'une césure.
Ok. Merci déjà pour la présentation qui a eu lieu avant. Donc, on l'a bien compris, la césure, c'est quand même une opportunité de développer plein de compétences à travers des expériences qui peuvent être très différentes. Et du coup, pour l'espace orientation insertion, c'était important de pouvoir proposer aux étudiants, et aussi c'était une réflexion qu'on a eue avec Marjorie et son équipe, de pouvoir proposer aux étudiants finalement un accompagnement dédié à l'identification de toutes les compétences qu'on développe, et aussi pour vous aider dans la rédaction du bilan de césure, et voilà, pour alimenter un petit peu tout ça. Donc, notre service, l'EOI, va venir ici en appui au dispositif de césure pour permettre de réfléchir aux compétences développées pendant les expériences significatives qui vont être vécues pendant la césure. Et voilà, on va pouvoir amener aussi une réflexion, si jamais, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais si on veut candidater dans une formation sélective ou si on veut accéder à un emploi, qu'est-ce qu'on va aller valoriser comme compétences qu'on aura développées au cours de cette césure? Comment on va pouvoir identifier tout ça, prendre conscience de ça et en parler de soi à l'oral à travers les expériences qu'on va vivre dans cette césure? L'accompagnement qu'on fait à l'EOI est assuré par des conseillers, des conseillères qui sont chargés d'orientation et d'insertion. Et cet accompagnement, c'est vraiment un moment privilégié pour faire le bilan et aussi pour valoriser les expériences significatives qu'on va vivre à travers la césure. Ça peut prendre plusieurs formes. Notre équipe, elle se tient à la disposition des étudiants pour de l'accompagnement individuel, mais aussi on va pouvoir proposer des possibilités de collectif à travers un atelier qu'on a construit et qu'on a proposé cette année. Un atelier qui s'appelle « Valoriser ses expériences ». Voilà, donc c'est un format pour nous qui est intéressant parce qu'il permet les échanges et le partage d'expériences entre étudiants, ce qui peut être très intéressant dans le cadre de césure. On va pouvoir vivre des expériences variées et donc partager un petit peu tout ça tous ensemble. Cette année, on a commencé à réfléchir à des modalités pour proposer cet accompagnement un peu particulier en fin de césure. On verra à quelle forme ça prendra l'année prochaine, ça sera certainement un atelier comme cette année. Mais voilà, peut-être qu'il y aura des périodes un peu plus propices, donc on reviendra vers vous à ce moment-là quand on aura les informations. Donc on vous invite vraiment à vous saisir de ce moment de réflexion pour pouvoir un peu faire le point et identifier un peu plus facilement vos compétences, parce que ce n'est pas forcément une notion qui est facile à prendre en main. Mais si on est accompagné, qu'on a les bons outils, ça peut être très très aidant pour la suite du parcours. Voilà.
Super, merci beaucoup Laure-Hélène. Alors juste une dernière slide avant de laisser la parole à Julie qui est bien de terminer sa césure. Donc revenir à l'université après la césure. Donc comme vous l'aurez compris, une fois que vous avez terminé votre période de césure, vous êtes censé réintégrer votre formation dans laquelle vous êtes inscrit en 24-25. Dans le cas où vous souhaitez changer de cursus ou d'orientation, c'est possible, hein, ça fait partie du jeu aussi de vous rendre compte que finalement la formation pour laquelle vous êtes inscrit ne va pas correspondre à vos attentes de votre projet professionnel. Vous devrez en fait informer donc nous, la DEV, à la Direction des études et de la vie étudiante, donc comme le disait Bérénice, votre référent césure, que vous souhaitez réintégrer ou intégrer un autre cursus. Voilà, mais on vous renseignera en fonction des cursus de votre année, etc. Mais voilà, soyez surtout vigilants à la fin de votre césure si vous souhaitez réintégrer ou non votre formation. Est-ce que c'est Reda une question?
Par rapport à ce que tu disais, si vous faites le choix de ne pas réintégrer votre formation et mais d'en intégrer une autre, soyez vigilant aux dates de candidature, surtout en fonction de l'année que vous visez. Si vous voulez changer de master, il faut recandidater du coup sur mon master. Donc vous n'êtes pas sûr d'être pris dans le master que vous visez à présent. Si vous souhaitez reprendre une formation à zéro, c'est Parcoursup, il ne faut pas louper les délais non plus. Donc, en tout cas, si vous vous rendez compte assez tôt dans votre année de césure que vous souhaitez changer de formation par la suite, regardez bien les démarches, les dates et ne loupez pas le coche.
Et si vous souhaitez changer d'établissement, ce qu'on n'espère pas parce qu'on aime bien, on vous aime bien, si vous souhaitez, mais c'est possible que vous souhaitiez changer d'université parce que vous avez trouvé une autre formation dans un autre établissement. Surveillez bien, soyez bien vigilants aussi aux dates de transfert de dossiers. Il y a également des dates. Donc c'est un conseil, vraiment anticiper, surveiller les dates et préparer votre retour à l'université. En tout cas, nous, on est là pour répondre à vos questions. Bon, Julie, je te laisse la parole. Tu viens à côté de nous? Bonjour, moi c'est Julie du coup, je suis en césure, j'ai pas fini ma césure, j'ai presque fini ma césure. L'année dernière j'étais en L2 de psycho et c'est l'EOI qui m'a parlé de la césure. Au début, la césure je la voyais comme perdre une année. Et finalement, je l'ai bien accueilli et je l'ai bien investi, je pense. De ma césure, j'en ai fait quoi ? Mon projet principal, c'était le bénévolat. Donc, c'est ce qui a justifié ma césure. Et c'est ce qui a été accepté. C'est le mot que j'ai été acceptée au bénévolat, quoi. Et sinon, j'avais un projet personnel d'écrire un livre. Et j'en ai aussi profité, donc, de par l'EOI, de faire deux stages. Donc, un de 3 semaines en crèche et un que je suis en train de faire actuellement en prison. Donc, de 2 semaines. Voilà, dans les grandes lignes. Je reviens sur ce qui a été dit à la fin. Moi, je voulais changer d'université pour me rapprocher de mon master qui est à Rennes. Et j'ai loupé les délais. Donc, je vous conseille également de bien regarder. Voilà. Et comment tu as entendu parler de la césure, justement ?
Eh bien, comme je disais, c'est Laurélène. Oui. Eh oui, c'est Laurélène qui m'en a parlé. Et oui, au début, je l'ai pas. J'étais un peu stressée à cette idée-là, et je crois que j'en avais jamais entendu parler réellement. Je l'avais jamais eu à l'idée. Et après, j'étais accompagnée par Serena pour les stages et les conventions.
Et du coup, est-ce que la procédure pour faire la candidature, est-ce que ça t'a semblé simple, compliqué ? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé qu'on t'apporte comme aide ou pas ? Comment tu l'as vécu ?
Mais je crois que là aussi, j'ai loupé les dates d'inscription. Donc là, on m'a bien accompagnée du coup, parce qu'il y a eu des exceptions, mais... C'est vrai que cette réunion-là, j'aurais bien voulu l'avoir avant de m'inscrire pour être sûre de tout, quoi, et ne pas me poser de questions en cours de route, comme j'ai pu le faire tout au long de ma césure.
Et en bénévolat, tu as fait quoi, du coup ?
Eh ben, toujours dans le milieu de la prison. Ça s'appelle Brin de Soleil, c'est à l'année, du coup. C'est des permanences jour et nuit, dans une maison d'accueil pour les familles des détenus. Voilà. Donc, on accueille les familles et les permissionnaires qui viennent pour prendre du temps avec leur famille. Pardon.
Et donc, du coup, au final, ça t'a apporté quoi, cette césure ?
Beaucoup de choses. Déjà du repos, parce que c'est vrai que je suis allée vers l'EOI parce que j'étais fatiguée de ma L2. Et puis bah, des projets perso, donc comme mon roman. Et aussi pour le master, du coup, les stages que je suis en train de faire, ça va être significatif dans ma candidature future, je pense. Et j'ai aussi travaillé, ce qui m'a donné beaucoup d'expérience pour mon CV.
Et si tu avais un dernier conseil à donner aux autres personnes ici, avant d'entamer un peu une césure ou autre, qu'est-ce que tu donnerais pas à la fin de la césure, parce qu'on a compris qu'il fallait bien anticiper, etc. Mais voilà, pour tous ceux qui souhaitent, qui se posent encore la question de faire une césure ou pas, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil
De pas faire trop de choses. Je sais que j'ai voulu faire énormément de choses. Il faut aussi penser à son bien-être. Donc, effectivement, couper des études, mais pas totalement. Il faut rester fixé sur l'objectif que l'année prochaine, on y retourne. Et puis, faire des choses en lien avec son parcours et aussi avoir un projet, un réel projet personnel ou professionnel. Et pas ne rien faire de sa césure, mais normalement, de toute façon, si on fait une césure, on a un projet qui a été validé.
Super, merci beaucoup pour son intervention. C'est vrai que c'était une année... nous, on aime bien te prendre comme exemple parce que tu as fait beaucoup de choses différentes. Tu as fait plusieurs choses différentes. Ça a vraiment... on a eu la sensation que ça a vraiment... confirmer ton projet professionnel, ton projet de formation et en même temps on a senti que tu t'es aussi comme tu dis un peu reposée, un peu épanouie dans cette année de parenthèse, et c'est possible quoi, c'est vraiment possible et envisageable. Est-ce que il y a des questions dans l'assemblée? Oui.
Je voulais demander si on est refusé pour une année de césure ou tout simplement pas accepté un master. Est-ce que c'est possible de prendre une année sabbatique et revenir à faire un master, ou c'est vraiment pas du tout possible?
Si, je pense que vous pouvez recandidater l'année suivante pour un master.
D'accord.
Il faut suivre les procédures de candidature du master. Ouais. Par contre, vous n'avez plus de statut étudiant. Sur le chat, on a des petites questions? Pas pour l'instant. Eh bien, écoutez, en tout cas, on vous remet l'adresse ici, césure@unicamp.fr. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, des mails sur l'espace e-campus aussi. On a, comme le disait Bérénice, on a ouvert un forum. Vous pouvez poser des questions, prendre des rendez-vous avec nous. On est à votre disposition. Et on vous remercie encore une fois pour votre présence, votre participation. Je remercie également mes collègues qui sont ici et avec qui on a fait la présentation. Et merci beaucoup, Julie, d'être venue aujourd'hui. Ça nous a fait très plaisir. À très bientôt. Au revoir.